RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
Et à 19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Bonsoir Anne Rosenchère.
Bonsoir.
Avec le directeur adjoint, beaucoup de directeurs adjoints ce soir, de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Jean-Christophe Buisson. Avec le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir.
Et avec Alain Diamel qui nous a rejoint. Rebonsoir Alain.
Rebonsoir.
C'est donc une surprise pour personne. Seuls les Français jugeront le 23 avril. Vous avez entendu tout à l'heure sur RTL Luc Châtel, le porte-parole de François Fillon, déminait l'annonce avec 24 heures d'avance donc de la mise en examen de son candidat. Pourtant, les charges sont lourdes, un détournement de fonds publics, recettes et complicités d'abus de biens sociaux, manquement aux obligations déclaratives à la haute autorité. Alors, qu'est-ce que ça change? Et si, finalement, les Républicains font bloc derrière lui, est-ce que, finalement, ce n'est pas eux qui ont raison, puisque ça montre une solidité du candidat Fillon à 40 jours de la présidentielle? On en dit quoi sur les réseaux sociaux, Benoît?
Bon, on revisite déjà les classiques. Hein. Qui imagine le général de Gaulle être mis en examen la veille de sa convocation chez le juge pour être mis en examen, soupire Diane? Eh bien, c'est fait. Le général Gaulé ricane polémix. Et Fix écrit que la première réaction de sa voisine de métro a été de crier « Mais bon Dieu, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va parler programme dans cette campagne. Personne ne volera aux Français l'alternance qu'ils souhaitent », lance Éric Ciotti. Personne ne volera, ça reste à prouver, répond Twitter. Personne ne volera aux Français le droit d'avoir un président digne de sa fonction, s'énerve Miguel. Sam lui promet une belle veste au présidentiel et celle-ci sera gratuite, précise-t-il. Mais Hélène pense au contraire que ça peut lui servir. Elle parle de ce frisson d'interdit que vont s'offrir des millions de Français en glissant dans l'urne le nom d'un mis en examen prônant éthique et sévérité pénale. Vous vouliez abattre Fillon, vous en avez fait un martyr, vous l'aurez président, lance carrément Jérôme. Mais quand on trahit sa parole, on est plus crédible. Les Français sont atterrés. Voilà ce qu'ils sont, grince Marie-Hélène. Tout peut arriver, qu'on sait d'où. Moi, par exemple, il y a un mois, je connaissais pas la fille de François Fillon. Et là, j'apprends que je lui paye son mariage et ses études. Je pense qu'il peut passer, conclut Thierry. Du coup, je commence à épargner des fois qu'on nous demande de participer au baptême des petits-enfants.
Anne Rosenchère, on a bien compris donc la com des Républicains. Rien de nouveau sous le soleil. Et vous l'avez entendu, un candidat qui résiste. Et donc, ça veut dire que ça sera un président résistant. Est-ce que finalement, ça ne le renforce pas tout ça, paradoxalement, François Fillon ?
Sur la deuxième partie, je crois pas. Sur la première, c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La mise en examen ne change rien à la présomption d'innocence. Néanmoins, il est de plus en plus pris dans un flagrant délit de parjure médiatique constant, puisqu'il l'a dit et il l'a redit, et il l'avait re-redit même après qu'éclate l'affaire Fillon, que s'il était mis en examen, il ne serait pas candidat. C'est exactement ça que les gens lui reprochent aujourd'hui. Ça n'est pas une présomption de culpabilité, entre guillemets. Je comprends que certains s'émeuvent, comme par exemple Jean-Pierre Chevènement dans les pages de l'Express, du timing de cette convocation. Néanmoins, personne ne l'avait obligé à dire que s'il était mis en examen, il ne se présentait pas. Deuxième incohérence flagrante, c'est son image. C'est quelqu'un qui avait une image de probité, d'intégrité, et comme me le disait un ténor des Républicains qui fait encore partie de son équipe de campagne, les électeurs ont l'impression que leur grand-mère a braqué la banque. Et c'est une surprise totale. Et donc voilà, il suffit de lire sur les forums d'un très bon journal, il s'appelle Le Figaro, dont j'ai un représentant en face, la réaction des lecteurs et donc un peu des électeurs de François Fillon, on s'aperçoit que ça passe quand même assez mal. Hein. Franchement, les électeurs sont très remontés.
C'est vrai, mais il y a néanmoins une hypothèse qui est qu'il avait bâti son image initiale comme le prix de vertu, l'homme exemplaire. Aujourd'hui, il a une telle résistance, et même plus que ça, qu'il est en train de se bâtir une image qui ressemble à quelque chose comme l'homme de fer ou l'homme de marbre, qui, en pleine bataille, est un pavide sous les balles, et donne le sentiment, à force d'être un pavide, justement, d'être quelque chose comme invulnérable. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce qui se passe le renforce, évidemment. Évidemment que c'est un handicap. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le sentiment quand même que il avait proposé une image, elle a été démentie de façon spectaculaire. Il en propose une autre, d'une certaine manière, celle-là, elle se confirme au fur et à mesure des différents épisodes.
Parmi les gens qui s'apprêtent à voter François Fillon, qui le disent, en tout cas dans les sondages, ce qu'on appelle le socle de cette droite, il y a des gens qui considèrent qu'il y a un complot, qu'il y a en tout cas un acharnement contre François Fillon, qu'il ne croit pas donc qu'il ait fait quelque erreur que ce soit. Et puis il y a des gens de plus en plus nombreux qui disent on ira voter tant pis s'il est comme ça, tant pis s'il a fait ça, on ira voter. C'est les malgré eux du vote Fillon, quoi. Il y a une espèce de
mais ça, vous les croyez nombreux ?
Oui, oui, il y a des gens...
Pour le programme et pour l'alternance.
Pour le programme, pour l'alternance,
malgré Fillon, pour des raisons, grosso modo.
Pour la volonté de revanche sur Hollande, ces électeurs-là existent. Pour le reste, et personne ne peut dire sérieusement que tout ça l'arrange, parce que quand même, quel parcours, quoi. On a commencé par le chevalier Bayard, on a découvert le père Goriot et on est chez les Thénardier. C'est quand même... Il y a quand même, en termes d'image, des choses qui sont extrêmement dures et qu'une partie de l'électorat, de cet électorat qui, en plus, est un électorat bien élevé, c'est un électorat qui a des valeurs, on les partage, on les partage pas, et qui a des règles, trouve là quand même que ça fait beaucoup.
Donc rembourser l'argent de poche, c'est mal passé aujourd'hui pour le coup dans ce qui remonte au standard derrière. Ben oui. Pour pouvoir justifier les rétrocessions des salaires du fils de François Fillon au Sénat, être obligé de dire il me remboursait son argent de poche, ça parle forcément aux Français.
Si vous voulez, il y a des gamins ce soir, il y a des gamins ce soir qui regardent leurs parents avec un sentiment d'inquiétude quand même. Et quand il leur dit on va voter Fillon, les mômes crient non. Il y a un truc comme ça quand même très dur.
J'en profite pour dire à ma fille qui se marie en octobre que je ne lui demanderai pas de rembourser son mariage.
Vous dites ça aujourd'hui, on ne sait pas plus tard.
J'en fais le serment. Non, mais moi ce qui me frappe, c'est qu'on ne parle pas de...
Félicitations, par exemple.
La grande, surtout elle, la grande information du jour, c'est la double victoire de François Fillon, qui est, un, d'avoir pris tout le monde à contre-pied en avançant de 24 heures cette affaire chez le juge, en évitant les caméras, les images désastreuses de lui se rendant au pôle national financier.
C'est un fait.
Et deux, je vous rappelle que dans les chefs d'inculpation qu'on annonçait entre 8, 10, 12, ne figurent ni le trafic d'influence, ni les l'abus de biens sociaux. Ce qui sont quand même les deux choses quasiment les plus graves qui
recèlent et complicité.
Ah oui, mais c'est pas la même chose qu'abus de biens sociaux, oui. Et ce n'est pas la même chose que trafic d'influence, qui était sous-entendu avec l'affaire Pénélope Fillon, la revue des demandes. Alors, rien n'est fini, il peut y avoir des supplétifs, etc. Mais quand même, l'information du jour, c'est que ces deux choses-là ne sont pas retenues contre François
Donc
Fillon.
Donc vous êtes en train de dire que c'est une bonne journée pour François Fillon, Jean-Baptiste
Bah,
c'est
oui, ça. Bah oui, absolument.
Vous dites ça, c'est une bonne journée.
On
savait qu'il allait être mis en examen.
Par ses enfants, il est mis en examen.
Je pense que sa mise en examen est beaucoup moins forte que celle qui était attendue. Et surtout, il a devancé de 24 heures.
Il aurait pu se faire écraser.
Le jugement médiatique.
Mais en même temps,
il a un bonjour finalement.
Les Buisson a raison, il aurait pu être 7 fois par jour, il n'en est que 3 fois.
Enfin, on peut dire aussi que l'homme privé, pour un électeur de la droite traditionnelle, dont il était vraiment le stéréotype quand même, l'homme privé est extrêmement décevant, mais que l'homme public est extraordinairement résistant.
Oui, oui, et pour abonder dans votre sens, regardez les sondages, qu'il soit resté à 19-20%, ça relève presque du miracle. Il aurait pu s'effondrer alors que sa cote s'est érodée. Et regardez, dans les chiffres à côté, parmi ceux qui sont dans l'abstention aujourd'hui, il y en a 45% qui auraient voté à droite. Donc ces gens-là, il peut aller les chercher d'une part. Et ceux chez Macron sont des gens, c'est là où il y a le plus fort taux d'incertitude. Donc il a encore un réservoir de voix.
Il y a le même chez Hamon.
On en reparle justement dans un instant, puisque Luc Chatel nous a dit que l'écart se resserrait avec Macron et que pour lui, rien n'était perdu. Donc on en parle dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel.
Et ce soir avec Anne Rosenchère, avec Alain Duhamel, avec Jean-Christophe Buisson et avec Jean-Luc Manot. Donc tout à l'heure, Luc Chatel nous disait que l'écart se resserrait avec Macron. Est-ce que vous y croyez, vous, Alain Duhamel? Est-ce que vous pensez donc que François Fillon, dans les 40 jours qui restent, peut regagner finalement et être qualifié au second tour?
Attendez, parce que la question est différente. Ah est-ce bon. Que si, oui.
Ah, je la trouvais bien.
Elle était admirable puisqu'elle était de vous. Mais,
voilà.
mais
elle est plurielle.
Il n'empêche. Est-ce qu'on peut dire que depuis 3 semaines, il y a eu le moindre gain de François Fillon?
Non.
Dans l'électorat? Réponse, non. Ça, c'est clair, c'est simple.
Tout ce qu'il prend dans la tête depuis 3 semaines, ça aurait été quand même miraculeux.
Non, mais on peut dire que ça ne s'est pas produit, puisque ça ne s'est pas produit. Est-ce que ça veut dire qu'il est impossible que, dans les 5 semaines qui suivent, il regagne? Honnêtement, je ne dis pas que c'est probable, mais c'est imaginable. Ça va vraiment dépendre, cette fois-ci, de la comparaison dans les débats télévisés entre les candidats. Ça sera vraiment... il a été très bon, et c'était déjà une surprise.
Sauf que, est-ce que quand même, avec ces débats, Jean-Luc, ils ne vont pas être parasités, pollués par, finalement, ces affaires, et que là où il était bon, c'était sur le fond, mais le fond, il n'aura pas l'occasion tellement peut-être de l'exposer. Hein.
Bon, dans les débats, il faudra quand même que chacun tienne compte qu'il y a eu quand même une certaine volonté à 35 jours de l'élection présidentielle, qu'on discute un peu du fond et des problèmes qui se posent dans des situations, de la tension, des problèmes internationaux.
Oui, alors, mais dit autrement, est-ce qu'il n'est pas d'une certaine manière décrédibilisé quand il va parler d'assistana, il va faire rire tous les autres, quoi.
Non, mais je pense qu'il y a des mots qui sont désormais interdits pour lui. Et donc, c'est évidemment une difficulté dans la structure de sa campagne. Moi, je vais, pour être bref, je pense une chose. Je pense que François Fillon n'a pas la ressource politique d'inverser le résultat aujourd'hui. En revanche, je pense que les clés du scrutin, elles sont dans la poche d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron fait de graves erreurs, et c'est possible, dans un débat, dans une fin de campagne, s'il n'est pas au niveau, notamment sur les questions qui sont les questions régaliennes, où il est en examen.
Donc les clés, c'est pas lui. En tout cas, il peut bénéficier de la situation.
C'est pas le mot en ce moment, en examen. Lui, il n'est pas. Il est. À l'essai. En tout cas, il est sous le regard des Français. Là, ça compte et il peut effectivement faire des erreurs qui, là, pourraient le conduire à être en difficulté.
Autrement dit, les seules chances de reconquête de François Fillon ne sont pas ses performances, mais les erreurs de ses concurrents.
Ah non, Alain, si vous me prenez le boulot, ça, généralement, c'est moi qui synthétise ce que disent les polémistes.
Non, non, non. Tout le monde synthétise.
C'est bien, on pourrait être vexé et penser qu'il le fait, parce que c'est pas clair, mais comme il le fait souvent, c'est une volonté de... de sursignifier.
Pardon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Quand la Ve République a été fondée, l'idée, c'est une rencontre d'un homme avec le peuple. Là, depuis des semaines, on a l'impression que c'est la rencontre d'un homme avec un juge. Ça fait des semaines que ça dure. On a un petit espoir que ça s'arrête, désormais, avec la mise en examen. Bon, Pénélope, c'est dans trois semaines. Très bien. Fillon, il a fait toute sa campagne, y compris pour justifier le fait que finalement, il revient sur sa phrase « si je suis en examen, je me retirerai », sur le fait que maintenant, c'est sa rencontre entre lui, effectivement, et le peuple français. Et c'est pour ça que les débats télévisés vont le servir, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaires. Il y a évidemment deux personnes qui posent des questions, mais qui posent des questions cadrées, etc. Et après, c'est lui face aux Français. Alors les autres vont l'attaquer, mais lui, il sera dans son couloir, et il a été très bon dans la primaire comme ça, et c'est comme ça qu'il a gagné les débats télévisés dans la primaire, c'est qu'il n'y avait plus de filtre entre lui et les téléspectateurs qui seront 10, 11, 12, 13 millions sans doute sur TF1 la semaine prochaine.
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas enterrer François Fillon, c'est pas... De toute façon, les derniers mois nous ont montré que les vérités du jour ne valaient pas grand-chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a un peuple de droite qui veut une alternance, qui est en colère, certes, aujourd'hui, pour une partie contre son candidat, qui est déçu par son candidat. Néanmoins, est-ce que si la campagne se calme et que, à la faveur des débats, en effet, il apparaît que le projet porté par François Fillon correspond plus à leurs attentes de peuple de droite,
là,
on va dire.
Il a le couloir.
Voilà, il peut l'avoir, en effet.
Enfin, en une phrase, il a été le grand favori. Et il n'est même plus le challenger, il est l'outsider. Ouais. Il est le numéro 3.
C'est vrai.
Le problème, c'est selon des sondages qui se trompaient avant la primaire.
Le problème, c'est de savoir, dans la relation d'un homme avec le peuple, c'est de savoir où est le peuple et qui est le peuple. François Fillon, c'est assez frappant, quelques observateurs l'ont remarqué. Il utilise une formule rhétorique quand il parle à son public, qu'on appelle en rhétorique la synecdoque, qui est en fait le fait de confondre le particulier avec le genre. En général, il dit à ces gens-là, vous êtes la France, mais ils ne sont pas la France. Ils sont évidemment ils sont une partie de la... Oui, mais ils le multipliaient.
C'est vous qui faites de la rhétorique.
Non, ils le multipliaient, c'est assez intéressant, parce que c'est en général un signe d'exclusion d'une partie des gens.
Allez, dans un instant, Manuel Valls, à gauche donc, qui souffle le chaud et le froid.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
À 19h39, on refait le monde ce soir avec Alain Duhamel, Jean-Luc Manot, Jean-Christophe Buisson et Anne Rosenchère. Valls hésitation, l'ancien Premier ministre, défait à la primaire, retrouve ses proches à l'Assemblée. Hier, il démentait qu'il allait appeler à voter Emmanuel Macron dès le premier tour pour contrer le FN. Mais ce matin, il expliquait à Paris Match, en tout cas, qu'il n'apporterait pas son parrainage à Benoît Hamon. Il y a trop de contradictions. Pour le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, le candidat n'en a pas besoin. Alors, selon vous, à quoi joue Manuel Valls sur les réseaux sociaux, Benoît?
Déjà, on n'est pas très sûr
surpris de ses atermoiements. La question n'est pas de savoir s'il va finir par soutenir Hamon, mais si Valls vise une place auprès de Macron ou bien 2022, écrit Paysan. Mathieu résume ainsi le bazar. Hamon ressent de son programme, mais Valls préfère Macron qui s'allie à Bayrou pour choper les déçus de Fillon qui drague l'électorat FN. Plus sérieusement, beaucoup sont choqués du refus de parrainage. Pour mémoire, voici ce que stipulait la charte de la primaire signée par tous les candidats, qu'ils devaient soutenir publiquement le vainqueur, rappelle Frédéric. Entre son 49-3 et ce refus de soutenir Hamon, Valls montre qu'il a un vrai problème avec le concept de démocratie, grince Papillon. Olivier pense même qu'il faudrait l'exclure du PS, mais Hélène de ricaner, même si formellement il doit se soumettre à Hamon, vous voyez bien que ce serait saugrenu et ridicule. Pourquoi Valls parrainerait celui qui a voulu déposer une motion de censure contre lui ? Gauche irréconciliable, estime Robert. Ne pas suivre Hamon, c'est juste une preuve d'intelligence. Il n'est pas le seul à se barrer. Bravo, monsieur Valls, applaudit même Xavier. Lato persifle au contraire qu'à ne pas être soutenu par ce traître, Hamon gagne en crédibilité. Oui, pauvre Macron, conclut Sandrine, avec tous ses ralliements hollandais, il aura du mal à se dissocier des échecs de ce quinquennat.
Choqué, Alain Duhamel, que Manuel Valls n'apporte pas son parrainage à Benoît Hamon ?
Formellement, je suis extrêmement choqué. Politiquement, je trouve ça tout à fait légitime. Il ne faut quand même pas oublier que Hamon, pendant 2 ans, a réellement été l'âme et le leader des frondeurs et que les frondeurs l'ont quasiment empêché de gouverner. Alors là, on dit « Ah, ça n'est pas bien, il le soutient ». S'il l'avait soutenu, qu'est-ce qu'on aurait tous dit ?« Oh, quelle hypocrisie, c'est ridicule, etc. » Non, moi, je trouve que, bon, c'est vrai que formellement, il est censé pouvoir le soutenir. Bon, c'est vrai que politiquement, ça serait assez absurde et qu'il n'y a pas d'incompatibilité, je crois en tout cas, entre le fait qu'il manifeste délibérément ses réticences vis-à-vis de Hamon et le fait qu'il attende pour éventuellement appuyer Macron, parce que ça ne lui fait pas plaisir non plus.
Oui. Moi, je pense que c'est la seule petite erreur. Il aurait pu le parrainer formellement et se mettre très en retrait de la campagne en disant « Vous avez bien compris que ce n'est pas ma tasse de thé », puisque le parrainage n'est pas forcément un endossement
Ça n'est pas un acte d'amour.
Non, ce n'est pas un acte d'amour. Donc là, je trouve que, bon, il a un petit peu créé la polémique pour rien. En revanche, moi, je ne crois pas, mais peut-être que les prochains jours me démentiront parce que cette campagne est tellement folle que, voilà, je ne crois pas du tout, mais alors pas du tout au rapprochement avec Macron. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que...
Peut-être dans l'entre-deux-tours.
Humainement, il se déteste. Mais j'ai rarement vu. Il y a des adversités.
Ils s'en sont arrivés à se détester, mais ce n'était pas le cas. C'est comme il l'a fait rentrer dans son gouvernement et il était actif là-dedans.
Quand vous dites que vous avez rarement vu, on voit que vous êtes très jeune. Franchement, en politique, j'ai vu bien
pire. C'est vrai.
Mais
il peut y avoir des adversaires, si vous voulez, mais bon, vraiment...
Mais par rapport à Hamon, Le Drian, par exemple.
Il se déteste encore plus. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il y aurait politiquement, pour le coup, parce que les vrais orphelins de Valls, vous le dites, ça intéressant parmi les politiques ou parmi même les personnalités de la société civile, etc., eux pensent même plutôt voter Fillon que Macron. Parce que Macron, sur les problèmes sociétaux sur lesquels quand même Manuel Valls a fait beaucoup son beurre ces dernières années, enfin pas son beurre d'ailleurs, sa notoriété, son image, tout ce qu'on veut.
Sa rigidité, ouais.
Pas du tout sur la même ligne. Sur les questions de laïcité, sur le côté de modèle d'assimilation versus multiculturalisme, etc., sont quand même c'est le fer de lance politique de Manuel Valls, et là-dessus, ils sont
Tout ça dépendra du niveau auquel sera Marine Le Pen.
National. On est d'accord.
C'est ça qui déterminera tous les comportements.
Mais en tout cas, pas aujourd'hui. Ça, je ne pense pas à un ralliement aujourd'hui.
Alors, moi, je pense que, comme l'a dit Alain Duhamel, Valls, il fait de la politique, et il fait de la politique en anticipant. C'est-à-dire, il est déjà dans l'après. Il est déjà dans l'après-présidentiel. Et là, il est obligé de la jouer fine. C'est-à-dire, il ne peut pas rallier Macron pour une raison très simple, c'est que Macron n'est pas sûr de gagner. Or, si Macron perd l'élection présidentielle, il faudra reconstruire ce qu'on pourra avec les restes d'un parti socialiste dont je rappelle qu'il avait remporté au congrès de Poitiers avec sa motion A la ligne réformatrice, même si c'est Hamon qui a inversé ensuite ce courant. Officiellement, le parti socialiste aujourd'hui, c'est la ligne Valls, la motion A, qu'il avait emporté. Donc il a légitimité à récupérer ça et en faire sans doute autre chose que ce que c'est aujourd'hui, mais quelque chose. Et si Macron gagne, eh bien, il pourra se targuer de ne pas l'avoir, de pas avoir rejoint Hamon et de pouvoir négocier, notamment pour ses députés valsistes, un certain poids au sein du gouvernement ou au sein d'une majorité présidentielle, s'il existe. Qui sera indispensable pour Hamon.
Pour Macron. Donc il fait de la politique.
Il fait de la politique et il fait de la bonne politique de son point de vue.
Oui, est-ce qu'on est choqué? Moi, Jean-Luc Manon. Je ne suis pas choqué. Là. Je trouve que dans la graduation de ce qui est choquant, je pense que des députés du Parti Socialiste qui rédigent et font signer une motion de censure contre un Premier ministre socialiste, c'est sans doute plus choquant que quelqu'un qui décide de ne pas envoyer son parrainage. Et donc, on est dans ce jeu-là, qui était un des jeux de destruction. Il a commencé il y a 3 ans. Il n'y a pas de raison qu'il trouve son terme avec la primaire. La deuxième chose, c'est que je trouve que Valls, qui fait effectivement de la politique, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, qu'il soutienne ou non Macron, n'a, dans la situation actuelle, guère d'importance. Car en réalité, il soutient de facto Macron. En cognant tous les jours ou très régulièrement sur Hamon, il ne fait pas le jeu ni de Marine Le Pen, ni le jeu de François Fillon. Donc celui qui peut utiliser ces accusations, c'est naturellement Macron. Donc le travail est fait.
D'abord, en faisant taper, parce qu'il ne le fait pas directement.
En faisant taper, mais en disant, en disant en privé que c'est un programme irréaliste, etc. Il le fait, et il va le faire davantage. Et d'ailleurs, l'intérêt de Macron, c'est en tout cas ce que dit son équipe, c'est d'éviter ces ralliements-là, d'éviter le seul ralliement qu'ils veulent, c'est le Drian. Parce que ça donne de la sécurité sur le régalien. Les autres, ils n'en ont pas envie. Ils trouvent qu'ils sont très utiles en jouant les spadassins utiles contre Hamon. Jusqu'à un certain terme, c'est le score de Marine Le Pen, en effet.
Voilà, je pense qu'il faut quand même nuancer selon la chronologie. Je pense qu'il a intérêt à une première vague de ralliement qui, effectivement, ne l'identifie surtout pas au quinquennat de François Hollande. Ça, c'est la première vague, c'est la vague actuelle. Mais si Marine Le Pen continue à monter, ce qui est tout à fait imaginable, si elle continue à monter, il aura besoin d'une deuxième vague. Alors, franchement, ce sera plus tard, mais qui sera alors absolument indispensable et qui ira très au-delà du Parti Socialiste.
Et là, il serait irresponsable qu'il ne le fasse pas.
Absolument.
Macron, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est des ralliements personnels. Il ne veut pas des ralliements de groupe de valsistes, de tout ce que vous voulez.
Enfin, vous l'avez entendu tout à l'heure dire qu'il n'était pas une chambre d'hôte. Hein,
exactement, mais il veut des ralliements personnels, sachant qu'il va présenter, c'est la nouvelle du jour, 577 candidats aux élections. Donc, même s'il a des gens du PS qui viennent, attention, il y aura quand même des candidats en marche, y compris éventuellement contre les candidats PS. C'est la première chose. Et deuxième chose, il est obsédé par une chose qui est très cohérente avec son programme, c'est qu'il veut des maires. Il ne veut pas des parlementaires. Il considère que les maires ont un contact direct avec les Français aujourd'hui qui sont déboussolés par la politique, voire dégoûtés, et que les parlementaires illustrent cette politique dont il ne veut plus, dont ils ne veulent plus, alors que les maires, par leur contact, par leur réputation, par leur légitimité, ça, on y voit la patte de Gérard Collomb, notamment.
J'espère qu'il est au courant, quand même, de la question des mandats compatibles ou non.
Bien sûr.
Hein, mais en l'occurrence, je parle de ces ralliements.
Mais là, il est dans l'idée d'arriver en finale pour le second tour. Donc l'idée, c'est d'avoir des ralliements personnels, des gens qui incarnent quelque chose dans leur ville, dans leur village. C'est pour ça qu'il tient plus à ces ralliements-là qu'à des ralliements de députés avec ce que l'image comporte aujourd'hui de négatif.
Allez, dernier sujet dans un instant, le voile en entreprise, donc interdit si le règlement interne donc n'en veut pas.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
On refait le monde à 19h50 sur RTL avec Jean-Luc Manot, Jean-Christophe Buisson, Alain Duhamel et Anne-Rose Enchère. Une entreprise peut donc interdire en Europe le port de signes religieux dans son règlement intérieur. C'est l'arrêt de la Cour de justice européenne rendu aujourd'hui. Elle statuait sur le cas de deux femmes musulmanes, l'une en Belgique, l'autre en France, qui avaient été licenciées pour avoir porté ce voile. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, salue cette décision. Et vous, la loi n'a pas à se mêler de ce sujet? Ou alors, totalement, elle est dans son rôle? Très vite sur les réseaux sociaux, Benoît?
Ah, c'est très partagé. Hein. Une atteinte aux libertés individuelles dans sa mède, un laissez-passer pour discriminer, dit Belge. L'interdiction du voile en entreprise nous encourage à soutenir les entrepreneurs musulmans, soupire Alcantz. C'est bon ça, lance au contraire Guénaud. Champagne, résistance, lance Patricia, militante FN. Ah, c'est l'Europe que vous décriez à longueur de temps qui vous a donné ce droit, s'amuse Sarah. Ou comme se félicite Renaud Muselier, enfin la possibilité d'une interdiction claire du port du voile en entreprise. Les journaux titrent sur le voile, mais c'est tous les signe, Grinciane. Eh bien oui, ça prouve bien que dans l'inconscient collectif, c'est le voile qui pose problème, soupire Samy.
Jean-Christophe, vous saluez l'arrêt de cette Cour de justice européenne?
Bah oui, je constate juste qu'elle ne fait que confirmer la loi française, qui est bien la preuve que ça ne sert pas à grand-chose.
Pourquoi ça ne sert pas à grand-chose?
Parce que la loi française est très fragile, mais très bien faite sur ce sujet, même s'il est très compliqué à faire tenir, c'est-à-dire une neutralité totale dans l'administration, et puis dans l'entreprise, c'est ce qu'a prévu la loi El Khomri, qu'on a un peu oublié, de permettre aux entreprises justement de faire un règlement interne qui évite le port de symboles religieux s'ils sont une entrave à l'hygiène, à l'organisation de l'entreprise ou à la sécurité. Il n'y a rien à ajouter à ça. Que des femmes portent le voile dans une entreprise, si ça ne prête pas conséquence, en l'occurrence, de gêner un client, je ne vois vraiment pas pourquoi on va chercher à la Haute Cour de justice européenne quelque chose qui est dans la loi, qui est encore une fois très fragile, mais qui permet de tenir une ligne de crête qui évite les dérapages dans un sens ou dans l'autre.
C'est quand même la victoire, puisque c'est à l'échelle européenne, c'est quand même la victoire de la laïcité à la française sur le communautarisme à la britannique.
Absolument.
Hein, puisque quand on va en Grande-Bretagne, on voit un gardien de la paix avec un turban sikh sur la tête. Et, que tout
et
monde
un couteau à l'intérieur.
Et tout le monde trouve ça absolument normal. Bon, en France, ça paraîtrait totalement inconvenant. Le jour où on verra un CRS chargé avec un turban sur la tête est quand même probablement assez éloigné.
Donc, vous saluez...
Donc, je trouve que c'est une décision cohérente, cohérente, et c'est à la fois le respect de la laïcité, et ça n'est pas une marque d'intolérance, puisqu'il faut effectivement qu'il y ait une garantie que le règlement soit très précis, et par exemple, puisqu'on parlait des intérêts commerciaux d'une entreprise, il faut que ce soit vraiment établi, ça ne peut pas être gratuit.
Très précis et vaste, justement, pour éviter qu'on considère que ça stigmatise une région.
Il faut vraiment rappeler que c'est que dans le règlement intérieur, dans ces cas-là, doit être stipulé l'interdiction de tout signe religieux. On ne peut pas mettre dans un règlement intérieur qu'on interdit que le voile, bien entendu.
Signe religieux, sexuel,
voilà, ethnique, philosophique, etc. Et politique.
Cibler le voile.
C'est un petit peu comme. Je crois que vraiment, c'est même les mêmes termes, si mes souvenirs sont bons, que la loi contre le voile à l'école. Hein. C'est politique, philosophique et religion. Et religieux, et c'est tout confondu, bien entendu. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Jean-Christophe, sur ce point-là, parce que je trouve ça dommageable, justement, qu'on en arrive à demander à la jurisprudence européenne de statuer sur des débats qu'on devrait avoir, nous, plus sereinement en France, puisque c'est bien entendu en France et un petit peu en Belgique.
Parce que vous trouvez que les débats français sont sereins, en règle générale.
On devrait pouvoir en avoir. Je pense qu'en effet, la question du voile est une question qui a monté ces dernières années. Et quand on le fait, on le fait au pied du mur, comme la polémique absurde autour du burkini qu'il y avait eu cet été.
Ouais.
Moi, je pense que ce serait bien d'aller au-devant. Et pareil sur le voile à l'université, je trouve que c'est un débat serein que l'on devrait avoir. Je suis pas sur le fond, moi je suis mitigée, si vous voulez, je n'ai pas forcément d'idée, mais je préférerais que ne pas attendre que la Cour de justice européenne prenne les décisions pour nous.
Oui, non, je suis aussi d'accord avec la.
Je trouve qu'il fallait quand même statuer
avec la décision. Moi, je suis sensible à ce qu'a dit Alain Duhamel tout à l'heure, que je vais essayer de résumer.
Et j'ai été très long.
À mon tour, non, pas du tout, mais j'essaie de faire comme
la réciprocité,
comme vous, la réciprocité. Non, mais c'est très important parce que le concept de laïcité français ou à la française est un concept minoritaire dans le monde. Il est minoritaire en Europe et il est souvent très incompris des anglo-saxons. Et quand c'est une victoire importante. Elle dépasse les éléments matériels précis, c'est une victoire conceptuelle et c'est quand même plus rare et souvent plus intéressant. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi on pourrait dire qu'il faut dans la fonction publique interdire les signes ostentatoires, puisque c'est ça qu'il s'agit, et il faudrait considérer que les mêmes personnes qui pourraient être gênées devant ces signes ostentatoires ne le seraient pas dans certains cas dans le privé, donc je trouve assez logique que cette liberté soit offerte.
Alors moi je voulais dire que... je trouve que c'est une très bonne chose que ça soit la Cour de justice européenne qui le dise et pas simplement une instance nationale, parce que ça signifie que la laïcité française, qui est minoritaire en Europe, s'applique maintenant à l'ensemble de l'Europe.
Merci à tous les quatre. Merci Alain Duhamel, merci Anne Rosenchère, Jean-Christophe Buisson et Jean-Luc Manot. Dans un instant, le flash de 20h avec Quentin Vinet. Ensuite, on retrouve Thomas et Sidonie pour la curiosité. Bonsoir.
Salut Marco.
Bonsoir à tous. Bonsoir salut à Marco. Tous. Notre premier invité vient d'entrer dans notre studio. Il s'appelle Christian Clos. C'est un explorateur. Il s'est confronté lors de 4 expéditions au froid, la chaleur, la sécheresse, l'humidité. Mais alors, version XXL.
Ah ouais.
C'est les milieux les plus hostiles de la planète. Là, il rentre de Sibérie, par exemple.
Et il a la gentillesse de dire qu'on en est tous capables. À voir.
On va écouter ça. L'hostilité dans la curiosité. Curiosité, donc c'est ça, il arrive dans un milieu hostile chez vous.
Oui,
c'est ça,
oui, c'est ça, oui, une très très
hostile. Il n'y a pas plus doux que nous.
On va voir ça après le flash de 20h.
À tout à l'heure.